Voilà, Onde Noire, deuxième partie d'émission. Et en cette deuxième partie d'émission, nous allons vous parler des romans qui ont, romans ou autres types de livres d'ailleurs, qui ont retenu notre attention en ce mois de décembre. Jacques, je te laisse démarrer.
Donc, je vais parler d'un roman de Grégoire Hervier qui s'appelle Vintage, qui est paru au Diable Vauvert. Alors, dans notre émission Onde Noire, on répète à l'envi que c'est l'émission polar la plus rock de la bande FM.
On le répète à chaque début d'émission.
Voilà. Et donc, avec ce roman de Grégoire Hervier, elle va l'être encore plus. C'est un polar dans lequel il y a un enquêteur et une disparue. Classique. Sauf que l'enquêteur, c'est un guitariste, et la disparue, une guitare. Mais pas n'importe laquelle. Une guitare mythique, une guitare mystique presque, la fameuse Gibson moderne de 1957. Un prototype dont on connaît l'existence, mais que personne n'a vu depuis longtemps. Le héros, qui va donc enquêter, qui est guitariste, il se décrit lui-même. Le type en face, donc c'est lui, cheveux bruns mi-longs, mince, élégant, dans un blouson de cuir parfaitement cintré, c'était moi, Thomas Dupré, 25 ans, musicien, ex-guitariste de « Agathe the Blues and the Impostors », et pigiste pour d'obscures revues musicales et propriétaire de rien du tout. Donc là, pour gagner sa vie, ce brave Thomas, il fait un remplacement dans un magasin de musique, un magasin de guitare vintage à Paris. Et c'est là que l'aventure va commencer pour lui. Un client écossais achète une Gibson Gold Top, c'est une Gibson Les Paul, c'est celle qui est sur la couverture du roman, vous la verrez quand vous irez chez votre libraire.
Vous cherchez la photo sur Internet,
voilà.
Aussi. Hein.
Mais en fait, il exige que cette guitare, qui vaut quand même très cher, lui soit livrée dans son château près du Loch Ness. Et ce château aurait appartenu à Jimmy Page. Mais c'est une autre histoire.
Alors, Jimmy Page, il faut peut-être parler quand même de Led Zeppelin.
C'est le guitariste mythique, fabuleux de Led Zeppelin.
Nous avons des fans de polar, voilà. Tout le monde n'est pas forcément.
Mais en fait, l'achat de cette Gibson Gold Top n'est pour le châtelain... Châtelain un peu étrange, qu'en fait qu'un prétexte pour trouver un commissionnaire qui lui dénicherait cette fameuse Gibson moderne dont je parlais au début, ce prototype de 1957. Ou au moins, à défaut de la dénicher, lui amènera la preuve qu'elle a bel et bien existé. À ce niveau du récit, vous voulez peut-être savoir à quoi ressemble cette guitare ? C'est facile. C'est ce truc un peu bizarre dont joue parfois Billy Gibbons, qui est le guitariste de ZZ Top. Une guitare qui n'a pas vraiment de forme, une espèce d'éclair stylisé, un peu comme une Flying V dont on aurait raboté un bout. Voilà, donc Thomas, il va rechercher cette guitare, une guitare qui est... apparemment unique, elle est dans un bois avec des micros exceptionnels. Bref, c'est une rareté qui vaudrait quand même plus d'un million de dollars. Donc ça peut permettre quand même de payer quelques sous pour la retrouver. Bref, en gros, c'est une guitare que tout amateur désire et une guitare pour laquelle certains seraient prêts à tuer. Et cette quête, donc, de Thomas dans Vintage, elle est presque de l'ordre du religieux, en fait, parce que cette guitare, elle est devenue tellement mystique, c'est quelque chose que...
Mythique.
Mythique, pardon. Les deux. Et donc, il va aller du Loch Ness, puisque le château de l'Écossais est non loin du Loch Ness, il va aller au Japon, puis en Australie, et enfin aux États-Unis, là où est née cette guitare, là où est né le blues, là où est né aussi le rock, et là où est né le hard rock, peut-être. Non, le hard rock, allez, il est plutôt né en Angleterre, mais bon, peu importe. On va croiser Jimmy Page, on en parlait tout à l'heure. On va croiser un sosie d'Elvis, une charmante étudiante...
Il est mort, Elvis, pas le sosie.
Elvis, il n'est pas mort.
Au Loch Ness,
Elvis n'est pas mort.
C'est peut-être le monstre du Loch Ness.
On sait-on. Ouais, on a vu comment il était devenu gros, peut-être bien, ouais. Donc, une charmante étudiante en musicologie, des producteurs de musique, des ingénieurs du son. Il va même nous amener au cœur du blues, à Clarksdale, là où Robert Johnson... aurait fait son pacte avec le diable. C'est un très, très bon roman, très bien documenté, et surtout écrit par un amoureux de la musique, du blues, du rock et des guitares. Je pense qu'il est guitariste aussi, lui,
probablement. Oui, c'était ma prochaine question.
Oui, s'il n'est pas guitariste, en tous les cas, il en fréquente beaucoup. Mais en fait, on n'est pas vraiment obligé d'être guitariste pour apprécier la lecture de ce vintage. Évidemment, si on est fan de Dalida ou de Céline Dion, cela aura beaucoup moins d'intérêt, mais je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup qui écoutent cette émission. Donc, voilà. Un petit bémol, après tout,
Nous venons de perdre trois auditeurs.
Un petit bémol, j'ai le droit de faire un bémol puisqu'on parle de musique. Je suis pas trop fan de la fin du roman. Il y a un petit truc qui me chiffonne dans la dernière partie, je dirais pas quoi bien évidemment, mais en fait j'ai un peu du mal à y croire. Mais les fans de, disons, de fantastique, eux, ils trouveront leur compte. Cela reste un excellent roman, il est même sélectionné pour le prix des lecteurs de Quai du Polar en 2017.
C'est Festival de Lyon, très
voilà,
connu.
Voilà, c'est donc une référence. Donc, vous aimez le polar, vous aimez le rock, ben, vous allez forcément aimer Vintage. Il y a même, juste un petit détail, les éditions Au Diable Vauvert, donc chez, qui publient ce roman, ont poussé le luxe dans la maquette de modifier leur petit logo. Leur petit logo, c'est un diable qui tient normalement une fourche. Et ben là, au lieu de tenir une fourche, il tient une Flying V.
C'est la tout, guitare.
La guitare.
Des fois
la Gibson Flying V, voilà. C'est tout juste la classe.
Voilà. Donc, peut-être vas-tu nous proposer à la suite un tout petit peu de rock, justement.
Un tout petit peu de rock, du rock, du blues, du blues rock, avec un morceau de ZZ Top qui s'appelle La Grange, qui est un de leurs plus connus. Et c'est un bon gros blues, disons, bien gras. Il a été enregistré à Dallas, Texas, en 2011, avec cette fameuse Gibson Explorer qui ressemble à rien. Donc, si vous cherchez sur YouTube, vous verrez à quoi elle ressemble.
Oui, parce qu'à la radio, vous verrez rien du
non,
tout.
Non,
hein.
Vous verrez rien. Et le morceau s'appelle La Grange, donc ZZ Top. Just let me know if you wonder. Do you know my name? Who's the other one of my skills Elle ressemble peut-être à rien, comme je disais tout à l'heure, et encore ça c'est juste mon avis, mais alors elle a un putain de son.
Restons courtois. Voilà, ben, ce morceau de musique, je ne savais pas que c'était celui-là qui allait passer. Ben, je trouve qu'il va très bien, un peu métal, on va dire, hein, au recueil de nouvelles dont je vais vous parler maintenant. Ben, pourquoi ? Parce que le titre de ce recueil de nouvelles s'appelle « Métal amer ». Je trouve que le titre est magnifique, « Métal amer ». Je ne me lasse pas de le dire à haute voix. C'est le premier écrit publié par son auteur.
« Métal amer », comme on dit chez nous.
C'est ça, c'est pas tout à fait le ton du roman, mais c'est joli. Donc son auteur, c'est Yvon Coquille. J'ai dit premier écrit parce qu'il avait déjà, en fait, écrit le scénario d'une bande dessinée parue chez le même éditeur. Et les éditeurs, ce sont les éditions Sixto. Et je veux préciser que nous remarquons très régulièrement les très bonnes incursions de ces éditeurs dans le domaine du roman noir. Donc, recueil de nouvelles, 10 histoires, 10 destins. Ce sont évidemment des bouts de destin puisqu'on est dans des textes courts, mais l'auteur, très habilement, à travers le prisme d'un petit morceau de vie, nous dévoile toute la trajectoire de ses personnages. Des ouvriers qui sont tous passés par les chantiers navals dans l'Ouest, autour de Brest. Certains travaillent encore, d'autres sont au chômage, l'un est même en prison. Chaque histoire est en sorte, en quelque sorte, un drame ordinaire. Un moment où la ligne de vie se brise ou finit de se briser. Pour Arsène, par exemple, qui a perdu son boulot, puis sa femme, sa fille. Tout envie de battre s'est enfui. Ou alors on a aussi Tijan, qui au volant de ce qu'il appelle son Panzer, en fait c'est une 403, un vieux rêve, une collision, et c'est le cauchemar. Et puis il y a Polo et ses copains soudeurs à l'arsenal, soudés à la vie, à la mort, vraiment. Polo qui tape le carton pratiquement chaque jour dans un rad avec des fantômes. Pour chacun d'entre eux, l'horizon est bouché. La faute, on ne sait pas. La faute aux conditions de travail, aux cadences, aux payes minables qui permettent juste de survivre, juste de penser à faire des heures sup pour s'offrir ce tout petit peu de superflu qui devrait être juste normal. Alors, comme dans la chanson de Brel, on boit pas mal, on pleure sur ses femmes, fidèles ou infidèles, et puis surtout on craque. On rit aussi, un rire cynique, amer comme le métal, peut-être comme l'amiante, que la plupart ont respiré à plein poumon toute leur vie. Yvon Coquille, l'auteur, a lui-même travaillé à Brest, lui-même sur les chantiers navals, pendant plus de 30 ans. Gageons que tous ces personnages, il les a un jour croisés, connus, aidés, peut-être aimés, sûrement aimés. Il n'a pas eu à faire preuve de beaucoup d'imagination pour inventer ce qui manque, et c'est surtout pas une critique. Mais ces gens ordinaires, comme dirait Neil Young, il les sculpte somptueusement, en quelques phrases, quelques pages. Pas de misérabilisme, pas de poncifs dégoulinant de bons sentiments sur la condition de ces ouvriers et ouvrières. Pas de jugement, juste un regard bienveillant, une tendresse. Un regard qui se fait quand même très féroce pour ceux de l'autre côté, ceux en Loden, ceux au sourire Colgate, ceux qui ne voient que dans leurs employés que des machines, en plus des machines à profit, que l'on n'hésite pas à débrancher d'un geste pour augmenter les bénéfices. Mais attention, pas de discours enflammé dénonçant l'oppression du peuple. Non, comme je le disais au début, des petits morceaux de vie, de chair, de sang. Cette chronique, on ne donne pas de titre aux chroniques, mais en gros, j'aurais bien aimé lui donner un titre. Ça se serait appelé « Coup de projo sur les prolos ». Voilà. Donc, comme vous avez pu le constater, c'est vraiment des textes qui m'ont enthousiasmé, vraiment beaucoup plu. Donc, il faut les découvrir. Il faut les réclamer au libraire. Je ne suis pas sûre qu'il soit tout devant, ce livre. Ça s'appelle « Métal amer ». C'est paru au Cercle Sixto. Et nous félicitons l'auteur qui s'appelle Yvon Coquille. Voilà, Jacques, je te laisse terminer par autre roman qui t'a plu.
Je vais terminer, et c'est pas souvent dans De Noir, par un conte de Noël.
C'est d'actualité.
C'est d'actualité.
C'est judicieux.
Alors bien sûr, sur la quatrième couverture de ce roman, il y a marqué « Roman noir ». Et c'est bel et bien un conte de Noël et aussi un très beau roman noir. Un peu comme un vieux Capra du XXIe siècle. Alors le roman, c'est un roman de Clément Millian qui s'appelle « Planète vide », qui est paru donc à la série Noire. Alors que « Planète vide », c'est pas du tout un roman de science-fiction, quoique. Donc le héros s'appelle Patrice Gemba, il est surnommé Papa, il a 11 ans. C'est un petit gars qui vit avec sa maman, il va au collège. Mais il est la tête de turc de la bande de vauriens du coin, car il a des lunettes et il aime bien les étoiles, l'espace, les fusées. Il aime bien aussi dessiner. Et les gens différents sont souvent pris à partie car au fond, ils font peur puisqu'ils ne rentrent pas dans le moule. Papa, pourtant, ne cherche pas la bagarre. Il les évite. Il veut rester le plus discret possible, cachant même à sa maman ses blessures, puisqu'il se fait tabasser. Mais un jour, c'est pas loin de Noël, il se rebelle. Et d'un geste malheureux, pas vraiment exprès, il envoie valdinguer un de ses bourreaux. Et croyant l'avoir tué, il fuit. Il quitte tout, sauf son livre, son beau livre, son gros livre sur l'univers qu'il trimballe toujours avec lui. C'est un de ses rares cadeaux. Il s'éloigne de sa banlieue pour aller à Paris, de l'autre côté de l'univers presque. Seul comme un gamin, sans presque d'argent, il va errer, fuir, s'éloigner, avoir faim, avoir froid, rencontrer des gens, des petits, des grands. Il y a beaucoup de grands quand on a que 11 ans. Et il va rencontrer des gentils, des méchants, des beaux, des moches, des qui puent. On se lave pas souvent quand on vit dans des squats, dans la rue ou sous les ponts. Il va croiser aussi des filles, des femmes. Et elles sont toujours belles. Attendri, mais il a peur. Voilà, c'est un très court roman, je ne vais pas en dire plus. Ce n'est pas du tout un mélo comme...
Ce que
je viens de dire. C'est un court, très court roman de 200 pages, à peine, au format poche. C'est assez rare chez, dans la série noire, mais il en paraît comme ça parfois, des romans noirs un peu ovni. Un très bon roman, un très bon premier
OVNI
roman.
OVNI pour Planète Vide, c'est bien.
Et en plus, exactement. Merci d'avoir remarqué. Un roman... à la fois poétique et pourtant très réaliste. Un roman initiatique aussi. Papa, Patrice, reviendra plus fort qu'il n'est parti. Un roman dont les chapitres sont très courts, les phrases courtes aussi. Il y a pas mal de personnages remplis d'humanité. Pas tous, certes, évidemment, il y a des salopards partout. Et comme cela se passe à la période de Noël, il y a des lumières dans les rues, dans les vitrines, et aussi, parfois, dans les yeux des gens, dans les yeux de papa, même quand il pleure de temps en temps. Et on voit en fait aussi ce roman, on voit la vie à mi-hauteur. On se dit que nous, les autres, les grands maintenant, de là-haut, on oublie souvent parfois de baisser les yeux et de regarder, de s'attendrir, ou même tout simplement parfois de réagir. Ce roman est aussi un hymne à Paris, qui est la ville de l'auteur. La ville lumière. Un Paris, malgré tout, me semble-t-il, un petit peu fantasmé. Papa, en fait, c'est... Allez, osons, c'est un peu James Stewart dans La vie est belle. Il redonne un petit peu d'espoir aux gens abattus, aux gens fatigués, aux gens découragés. Et parfois, au bout du chemin, ben, il y a comme une lumière qui ramène un peu d'espoir. C'est vraiment un très très beau roman.
C'est un conte de Noël.
Ah ouais, c'est un conte de Noël, mais c'est vraiment très beau et pas du tout mièvre ou mélo. Hein. C'est
pas ben, des scènes qui sont improbables.
Voilà, c'est exactement ça. Hein. Ben, un ovni, je disais tout à l'heure. Donc je rappelle Planète vide de Clément Millian, paru à la série noire de Gallimard, en format presque poche.
L'émission arrive à sa fin. Il nous reste à vous souhaiter, en ce mercredi 20 décembre, de bonnes fêtes de fin d'année, d'espérer que vos histoires à vous, vos histoires personnelles, eh bien, elles se terminent mieux que dans certains des romans dont on parle, que tout se passe au mieux. Et comme on dit plus tôt dans le Sud, on vous souhaite un très bon boudin avec des bons bouquins, avec des bons romans.
Et puis de la bonne musique, puisqu'on en a parlé pas mal aujourd'hui.
Et on a beaucoup évoqué la musique, les films, les livres, la vie, quoi.
Exactement.
Voilà. Bonne soirée, à bientôt.
Au revoir.